accent d'Europe, Catherine Roland.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Bonjour à tous, vous entendez là les clameurs des parlementaires dans le palais de Westminster après la défaite magistrale infligée à Theresa May par la Chambre des communes. Un non de 432 voix contre 232 à l'accord de sortie de l'Union européenne que la Première ministre avait pourtant laborieusement négocié avec Bruxelles. L'incertitude s'accroît. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Catherine.
Alors comment la presse évoque cette déculottée ce matin ?
Mais il y avait vraiment de quoi s'étouffer avec son thé hein, ce matin en lisant les journaux. Mais où est donc passé le flegme britannique ? Elle se bat pour sa vie, dit le tabloïd pro-Brexit Daily Mail. Sans accord, sans espoir, sans vision, sans confiance, résume l'anti-Brexit Daily Mirror. Humiliation totale, commente enfin plus sobrement le journal de droite Daily Telegraph. Quant à The Guardian, il revient sur une défaite historique. Et si la plupart des journaux affichent des photos du visage de Theresa May déconfite, The Guardian lui publie une image inédite, interdite même, puisqu'elle est prise par un député malgré les règles de la maison qui ne permettent pas les clichés. On sait qu'à Westminster, on vote avec ses pieds, on se déplace vers un couloir pour le yes, un autre couloir vers le no, et hier soir, il y avait tant de monde dans le couloir du non qu'on a pu voir des opposants politiques de toujours, des pros et des anti-Brexit côte à côte voter ensemble.
Preuve que ce vote était, on ne peut plus, surprenant à plusieurs titres. Marie, vous avez enregistré de drôles de réactions des citoyens comme de certains élus.
Ah oui, devant le Parlement, on a pu assister à un vrai sentiment de solidarité entre pro et anti-Brexit. Tous ont célébré en cœur la chute du deal de Theresa May. La Première ministre a mis tout le monde d'accord contre elle. Alors, dans le palais de Westminster, maintenant, écoutez les réactions des députés quand les résultats sont annoncés. Les parlementaires sont tout simplement soufflés. Ils n'étaient pas surpris par le résultat, mais par son ampleur. 432 voix contre et seulement 202 voix pour. C'est la plus grande défaite de l'histoire moderne du Parlement britannique. La plupart des députés y voient bien sûr l'humiliation totale de la Première ministre. Humiliation totalement retourné par un chantre du Brexit, l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui est persuadé que c'est un atout pour renégocier à Bruxelles.
La bonne nouvelle, c'est que ce vote de 432 voix contre l'accord donne un mandat massif à Theresa May pour retourner négocier à Bruxelles et dire « Vous voyez, ce que vous nous proposez, ça ne marche pas ». Il faut dire à nos amis européens qu'il nous faut autre chose en conservant seulement les bons côtés de l'accord.
Alors, pour terminer, hein, Marie, c'est la grande question que tout le monde se pose désormais. Et maintenant, quel scénario ?
Theresa May va devoir engager des discussions avec les autres partis politiques pour voir s'il y a moyen de s'accorder sur une version du Brexit. Si quelque chose de concret émerge, eh bien, elle ira en discuter avec Bruxelles. C'est ce qu'elle a dit. Rien n'est impossible hein, dans la perfide Albion. Ce qui est sûr, c'est qu'on en aura une petite idée lundi prochain en plus tard. Theresa May est obligée de détailler sa feuille de route devant le Parlement. Nouveau vote sur son accord, nouvelle négociation ou retard de la date du Brexit, voire même second référendum si vraiment elle est acculée au mur. Faites vos jeux, rien ne va plus.
Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni. À très bientôt, Marie. Alors évidemment, dans ces conditions, les eurodéputés britanniques sont quelque peu perdus quant à leur avenir. Ils commencent déjà à faire leur carton au Parlement européen de Bruxelles. Si leurs compatriotes fonctionnaires vont pouvoir conserver leurs emplois, beaucoup ont préféré malgré tout prendre les devants. Ils ont entamé des démarches de naturalisation pour être sûrs de pouvoir rester à Bruxelles. C'est le reportage de Laxmi Lotha.
Nous sommes ici au 13e étage. Tous les eurodéputés britanniques du Parti travailliste s'y trouvent. Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais en Grande-Bretagne, le nombre 13 porte malheur.
Nous sommes effectivement au 13e étage du Parlement européen à Bruxelles, en compagnie d'Alex Meyer, une eurodéputée qui a choisi d'utiliser l'humour pour évoquer la situation. Comme ses collègues, elle va devoir quitter son bureau plus tôt que prévu le 29 mars prochain. et s'y prépare.
Pour tout vous dire, je n'ai pas encore de carton entreposé dans mon bureau, mais je pense que cela ne va pas tarder malheureusement. Nous devons penser à beaucoup de choses, licencier le personnel hélas, mais aussi à des choses très terre à terre, comme donner son préavis au propriétaire pour le logement, apporter des cartons pour vider les bureaux, ce genre de choses. Nous arrivons à la fin de la législature, donc pour tous les parlementaires, il y a beaucoup de travail en cours, beaucoup plus de travail en fait. Nous avons encore besoin d'ordinateurs, de stylos, de papier, vous comprenez? On ne peut pas déjà tout mettre dans les cartons, il y a encore du boulot.
Wajid Khan, un autre eurodéputé britannique, n'a pas non plus de carton dans son bureau. Pour se passionner de politique, il y a encore trop de travail à faire au niveau parlementaire pour s'occuper d'un déménagement.
Pour l'instant, on se prépare mentalement à quitter ses bureaux. Mentalement seulement, hein, car il y a encore tellement de travail à accomplir. En tant que membre élu d'une institution, vous devez assumer vos obligations et vos responsabilités jusqu'au dernier jour.
Wajid Khan essaye donc de se concentrer sur ses dernières semaines en tant qu'eurodéputé, puis il avoue que ces moments ne sont pas faciles à vivre émotionnellement.
Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un moment très triste pour moi et pour mon équipe. Tant d'eurodéputés fantastiques ont servi cette belle institution et ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils ont joué un rôle clé avec des parlementaires d'autres pays.
À ses côtés se trouve Alex White, jeune assistant parlementaire. Lui aussi va devoir quitter son poste au Parlement européen le 29 mars. Alex White pense déjà à l'avenir. Il lui faut trouver un autre emploi car il ne souhaite pas du tout rentrer en Angleterre.
J'ai plusieurs options. Les eurodéputés peuvent employer des gens de différentes nationalités. Je connais par exemple des Colombiens qui travaillent ici. En tant que Britannique, je ne pourrais plus travailler pour la Commission européenne ou le Conseil, mais je pourrais travailler pour un parlementaire. Je pourrais aussi trouver un poste dans le privé à Bruxelles. Je suis vraiment optimiste. Je vais pouvoir rester.
Loin de cette agitation dans les couloirs du Parlement, les fonctionnaires britanniques, eux, sont plus tranquilles quant à leur avenir, car ils vont pouvoir rester. Dans les premiers temps, ils ont bien sûr été très nombreux à s'inquiéter et à poser des questions au syndicat des fonctionnaires européens You4You. Georges Vlandas, président du syndicat.
Les collègues britanniques étaient inquiets. Et d'ailleurs, l'institution les a réunis à plusieurs reprises pour essayer de le rassurer.
Certains ont manifesté une telle inquiétude, en particulier ceux qui ont fondé une famille à Bruxelles, qu'ils ont tout fait pour obtenir la nationalité belge ou une autre nationalité de l'Union. Alors qu'ils n'étaient qu'une petite centaine par an à obtenir la double nationalité les années précédentes, ils étaient près de 1400 en 2017, selon l'Institut des statistiques belges. Jean-Paul Soyer, secrétaire général de You4You.
Comme vous le savez, le Brexit n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des nouvelles tous les jours. Donc les Britanniques qui étaient concernés et qui voulaient rester au service de l'UE ont jugé préférable de prendre une nationalité, généralement celle de l'État dans lequel ils résident, ou de leur épouse.
Ces fonctionnaires ne souhaitent pas s'exprimer au micro, soit parce qu'ils occupent un poste sensible en ce moment, soit parce que leur hiérarchie leur a demandé d'observer un devoir de réserve pour ne pas créer de polémique en tant que membre de la fonction publique. Les fonctionnaires permanents vont donc pouvoir rester, mais ceux qui ont une fonction stratégique, de directeur général par exemple, ne pourront plus avoir ce poste et auront d'autres propositions. Il y a ceux qui restent et ceux qui partent. Au Parlement européen, quels sont les projets des eurodéputés britanniques? Wajid Khan et Alex Mayer.
Je vais rentrer en Grande-Bretagne et passer du temps avec ma famille. Vous savez, en tant que parlementaire, on sacrifie sa vie familiale. Je n'ai pas souvent vu mes proches. Je pense que ce sera une bonne chose de passer du temps avec ma femme et mes enfants.
Tout le monde me pose cette question sans arrêt. Vous savez quoi? Eh bien, je ne sais pas ce que je vais faire après. D'ailleurs, si vos auditeurs ont une idée de ce qu'une ancienne eurodéputée britannique peut faire, je serais ravie d'avoir leur retour.
73 eurodéputés britanniques vont devoir trouver une autre vocation.
Alors certains Britanniques ont trouvé une autre solution, le passeport irlandais, véritable graal pour rester européen. Dublin peut en décerner un grand nombre de résidents au Royaume-Uni, pourvu qu'ils aient un grand-parent irlandais. Le document fait donc figure de valeur refuge aux yeux de beaucoup en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles ou encore en Irlande du Nord, car ils estiment que le document pourrait leur donner plus de droits qu'aux simples ressortissants britanniques après le Brexit. Reportage de Julien Lagache.
Je vais faire la demande, c'est en cours en fait. J'ai les papiers, la photo, je n'ai plus qu'à poster le formulaire. Je voulais le faire depuis un moment et là je me suis dit qu'il valait mieux s'y mettre dès maintenant.
C'est bien le Brexit qui semble avoir décidé Sacha Sims-Rowan à sauter le pas, d'autant que la démarche est simple pour tous les natifs d'Irlande du Nord comme elle. En vertu des accords de paix de 1998, ils peuvent tous obtenir de plein droit un passeport de la République d'Irlande.
Jusqu'à maintenant, c'était plutôt les catholiques qui prenaient un passeport irlandais. Désormais, les protestants également, alors qu'avant, c'était presque impensable. Eux aussi, ils se demandent ce qui va se passer vis-à-vis de l'Europe et ils veulent continuer à en faire partie d'une façon ou d'une autre. Alors, ils choisissent la double nationalité.
Ils ont d'ailleurs encore été près de 85 000 Nord-Irlandais à réclamer le document à la Harpe en 2018. Bien plus qu'avant le référendum de 2016 auquel le pays avait largement dit non. Une majorité contrariée qui s'inquiète des répercussions, notamment quant à la libre circulation sur l'île en cas de retour d'une frontière. Cette frontière, Lee McKeown, électricien nord-irlandais de 19 ans, la traverse quotidiennement.
Avec mes collègues, on descend à Dublin en van. On passe la frontière et on fait le chemin inverse tous les jours.
La restauration d'une frontière, ça compliquerait les choses ?
Pas trop pour moi, puisque j'ai un passeport irlandais. Mais ça pourrait être un problème pour nos gars qui n'en ont pas. Il y aura peut-être des fouilles de la camionnette, comme avant.
Le passeport irlandais passe donc pour une sécurité, un sésame administratif contre les files d'attente aux aéroports, la paperasse, et pour conserver certains droits que n'auront plus les autres ressortissants britanniques, explique Dagmar Schick, professeur de droit européen associé à la Queen's University de Belfast.
En cas de Brexit sans accord, la citoyenneté européenne permettrait de garder le bénéfice de la libre circulation dans toute l'Union européenne. Mais elle donne aussi un avantage dans le cadre d'un accord de divorce qui ne protège que les citoyens britanniques s'ils ont déjà vécu ailleurs. Et si après le Brexit, les Britanniques affrontent une situation économique difficile, comme on s'y attend, la citoyenneté européenne leur permettra d'aller chercher un travail partout en Europe.
Rien d'étonnant donc à ce que le service des passeports irlandais connaisse une importante charge de travail depuis 2 ans et demi. L'an dernier, ce sont près de 100 000 Anglais qui ont demandé le précieux document, soit plus du double par rapport au niveau annuel d'avant le vote du Brexit. Mais l'essentiel des démarches s'effectue en ligne ou directement auprès des ambassades irlandaises. Au bureau des passeports de Dublin, on ne traite donc que des requêtes classiques comme le renouvellement demandé par Olive McGowan qui connaît bien la situation des Britanniques.
Nous avons un fils en Grande-Bretagne. Il est marié et il vit depuis 30 ans. Et il est en train de faire le nécessaire pour tous ses enfants à cause du Brexit.
Le gouvernement irlandais a encore annoncé un renforcement des effectifs pour traiter toutes les demandes. Et la ruée sur les passeports est très positive pour Neil Richmond, membre du parti au pouvoir à Dublin et sénateur à la commission Brexit du Parlement.
De notre point de vue, c'est une bonne nouvelle. Nous souhaitons que ces personnes s'approprient leur héritage irlandais. Nous aimerions que cela serve à préserver un lien avec le Royaume-Uni post-Brexit, que les nouveaux détenteurs de passeports viennent en Irlande pour visiter, faire des affaires, étudier, ou emménager, même prendre leur retraite. Et surtout, après le Brexit, nous voulons que le Royaume-Uni relance une campagne d'adhésion à l'Union européenne. Et si les nouveaux Irlandais peuvent être l'avant-garde du mouvement, c'est tant mieux.
Car on estime à près de 10% la population britannique éligible à un passeport dublinois, ce qui pourrait constituer une communauté et une influence importante, même si elle n'a d'Irlandais que les papiers.
Le chaos qui se profile au Royaume-Uni est une perspective qui inquiète également à Prague. Le gouvernement tchèque a préféré prendre les devants. L'ex-Brexit, c'est le nom donné à cette nouvelle législation, entérinée pour pallier les conséquences négatives d'une sortie du Royaume-Uni. Alexis Rosenzweig.
Le nouveau texte entériné début janvier à Prague a comme objectif le maintien du statut actuel des citoyens britanniques résidant en Tchéquie. Et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Cela concerne en premier lieu les conditions d'accès au marché du travail et à la sécurité sociale, ainsi que les questions fiscales, pour faire en sorte que les quelques 8000 sujets de Sa Majesté installés ici continuent de jouir des mêmes droits que les ressortissants des autres pays membres de l'Union. Échange étudiant, équivalence de diplôme et autres formalités en cas de mariage notamment, sont également garantis de rester provisoirement inchangés par cette législation qui n'entrera en vigueur le 30 mars prochain à Prague qu'en cas de non-accord entre Londres et Bruxelles. Il s'agit, selon le ministre tchèque de l'Intérieur, de mesures de réciprocité après les garanties données par Londres, de ne pas changer tout de suite le statut des Européens sur son sol. Mais le flou subsiste quand même sur les détails et sur les délais. Avec un nombre estimé à 40 000, les Tchèques ont beau être beaucoup moins nombreux que les Polonais à vivre actuellement outre-Manche. Le ministre tchèque précise que la priorité est de protéger leurs droits en attendant éventuellement que leur statut soit régi par un accord bilatéral entre Prague et Londres.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, c'est vraiment un sale temps pour les élus Eve en ce moment en Europe. Les Britanniques et les Français ne sont pas les seuls à devoir trouver un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle ils se sont fourvoyés face à leurs électeurs, leurs concitoyens. De part et d'autre de la Manche, mais aussi ailleurs en Europe, les crises démocratiques semblent indiquer qu'une page de l'histoire européenne est en train de se tourner.
Oui, que cela soit dans les mots employés hier par Theresa May, qui demandait aux parlementaires ce qu'ils comptaient faire pour respecter le vote du référendum sur le Brexit et donc tenir leurs engagements envers le peuple, ou dans ceux prononcés en novembre par le chef d'État français à l'occasion des manifestations de Gilets jaunes, qui lui reconnaissait l'existence d'un divorce entre les Français et ses dirigeants. L'idée d'une trahison entre représentants élus et citoyens du peuple fait en effet son chemin en Europe.
Cette défiance fait d'ailleurs partie des doléances recueillies en milieu rural et présentées hier par les maires des communes françaises au président.
Il s'agit des contributions que les Français étaient invités à remplir en mairie ou sur Internet ces dernières semaines. Jusqu'à 14% du montant total de ces contributions portent justement sur la réorganisation politique, mais aussi territoriale. Les élus seraient payés à ne rien faire. Ils devraient davantage respecter le peuple, martèlent les contributeurs, qui voudraient être consultés en tant que citoyens, notamment par la voix du fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Des citoyens qui souhaitent également une réforme du système électoral avec la prise en compte des votes blancs lors des élections. Seuls les maires, les élus locaux, donc considérés comme étant davantage sur le terrain et donc plus auprès des réalités quotidiennes dans leur commune, semblent un petit peu trouver grâce à leurs yeux.
Et pourtant, Eve, c'est un maire qui, en Pologne, a cristallisé la haine de l'un de ses administrés le week-end dernier.
Et Paweł Adamowicz était maire de la ville de Gdańsk, ville portuaire au bord de la Baltique, en Pologne, élu à l'automne dernier avec 64% des voix, autant dire largement. Il a été poignardé à mort dimanche dernier par un homme dont on ne connaît pas encore l'état psychiatrique. Il aurait annoncé vouloir se venger du PO, auquel l'élu appartient, la plateforme civique, principal parti d'opposition dans le pays, et qu'il aurait, selon donc l'agresseur, jeté en prison et torturé par le passé. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir dans le centre-ville pour rendre un dernier hommage à leur maire et appeler à la paix.
Et puis, en Serbie, Eve, les manifestations entamées il y a un mois et demi à Belgrade continuent tous les samedis.
Les participants à ces manifestations expriment leur colère contre le président Vučić et le gouvernement serbe. Ils exigent notamment des réponses concernant plusieurs agressions, voire carrément meurtres d'opposants politiques comme Oliver Ivanović il y a tout juste un an. Comme les Gilets jaunes, ils se sentent méprisés par un pouvoir qui ne veut pas les écouter. De son côté, le président aurait riposté en annonçant un contre-meeting organisé le 17 janvier, demain donc.
Alors, Eve, vous avez retenu une enquête du magazine britannique The Economist qui a publié la semaine dernière son classement des démocraties dans le monde. Il parle de malaise démocratique en Europe de l'Ouest.
Chaque année, le magazine attribue un indice de démocratie à chaque pays, allant de 1 à 10, basé sur 5 critères, les processus électoraux, le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique des pays. Sans surprise, les pays nordiques, Norvège, Suède, Danemark, en Europe, domptent le classement, mais l'Italie et l'Autriche ont largement chuté cette année et la France continue de faire partie des démocraties imparfaites, comme dit le magazine, un groupe auquel appartiennent également le Portugal, la Belgique, la Grèce ou encore Chypre.
Merci Eve, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe était réalisé et mis en onde par Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre également sur RFI.fr et puis sur les réseaux sociaux. À demain.